Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Plusieurs coins de la République démocratique du Congo ne sont pas éclairés, n'ont pas accès à l'électricité. Cette question était d'ailleurs au centre de la deuxième édition du Forum national sur l'accès pour tous à l'énergie durable, FODER, qui s'est tenu le week-end dernier à Kinshasa. L'objectif, c'est de transformer les énormes potentialités dont regorge notre pays en énergie fiable, propre, non polluante et accessible au grand nombre des Congolais. Alors comment faciliter l'accès à l'énergie durable à un plus grand nombre? On en parle avec Idesbad Chinamula, conseiller chargé de l'énergie et changement climatique au PNUD. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, mon cher Daniel.
Alors, nous parlons de l'accès à l'énergie durable. C'est quoi l'énergie durable?
L'énergie durable, c'est une énergie qui est renouvelable et qui va permettre à ce que les gens travaillent, s'assurent, remplissent leurs fonctions énergétiques, tout en sachant que cette énergie ne va pas poser des problèmes à l'environnement de façon globale.
Par exemple?
Oui, par exemple, la petite hydroélectricité, comme on en a plein ici, c'est l'énergie de l'eau qui est récupérée, qui est recyclée, et tout pour être transformé en électricité. Et donc, tant qu'il y a de l'eau, cette énergie ne fera jamais défaut. C'est la même chose pour comme le vent, comme également le bois énergie, la biomasse qui est utilisée, qui peut être des arbres qu'on peut planter, et puis nous avons de l'énergie par la suite. Donc ça, c'est renouvelable.
Alors, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui, bon nombre des Congolais n'ont pas accès à l'énergie durable?
Oui, ça c'est effectivement un grand défi et c'est une question importante. C'est vraiment ça le cœur même du FODER. Pourquoi les Congolais n'ont pas accès à l'énergie alors que le pays dispose d'un potentiel énorme en termes d'énergie hydroélectrique et globalement en termes de toutes sortes d'énergie? Ça c'est une question essentielle et qui aujourd'hui tout le monde sait par exemple.
Nous avons le barrage Dinga qui peut alimenter tout le pays.
Tous les pays, au-delà de la RDC, le barrage Dinga peut alimenter toute l'Afrique. Ça fait 44 000 mégawatts. Il y a aucun barrage au monde qui peut avoir un tel potentiel. Inga, dans son potentiel maximum, ça fait 44 000 mégawatts. Le plus grand barrage, on l'appelle Trois-Georges, il est basé, il est en Chine, mais c'est autour de 22 000 mégawatts. C'est la moitié des Inga. C'est aujourd'hui le plus grand barrage du monde. Donc, Inga a vocation d'alimenter et la RDC et toute l'Afrique. Mais à quel coût? Ça, c'est ça le grand problème. Pourtant, tous nos efforts, toutes nos énergies, si je peux dire ainsi, les investissements ont été orientés justement vers Inga pour semble-t-il éclairer la RDC, électrifier la RDC. Mais effectivement, cette approche a montré ses limites.
Voilà, cette approche a montré les limites. Alors, quelles sont les vraies raisons à la base de cette situation? Pourquoi bon nombre des Congolais n'ont pas accès à l'énergie alors que nous avons Inga?
Justement, beaucoup nombre n'ont pas, des Congolais n'ont pas accès à l'énergie, justement parce qu'on a Inga et parce que justement peut-être que Inga fait que les gens, les autorités orientent tout l'investissement sur Inga, toute l'attention sur Inga qui est excentrée à l'ouest du pays, vers le Bas-Congo. Tous les pays, les Congos, ça fait quand même environ 2,345,000 km². Vous pouvez pas à partir de Inga desservir de façon rentable l'est du pays, le centre du pays, par exemple. Vous voyez là, la ligne Inga-Chaba déjà Katanga qui fait déjà environ 2000 km et vous voyez les coûts d'investissement c'est un investissement important. On ne peut pas faire autant et puis le pays ne pourra pas, c'est pas possible avec l'Équateur. Nous avons des falaises, nous avons des barricades.
Donc la à cause de la géographie, la dimension du pays.
Tout à fait, c'est pas possible, c'est pas possible.
Il n'est pas possible d'éclairer.
C'est pas rentable, c'est pas économiquement rentable d'éclairer tous les pays à partir des Inga. Économiquement, ça peut pas se justifier. Inga a vocation d'être commercial et d'être exporté à l'extérieur du pays et bien sûr de servir les grandes zones minières, la zone industrielle de la RDC, qui est le Katanga aujourd'hui. Ça se peut justifier. Mais pour le monde rural, pour l'ensemble du pays, c'est pas possible.
Alors aujourd'hui, vous encouragez l'accès à un grand nombre à l'énergie durable. Pourquoi?
Mais juste, d'abord, c'est un droit constitutionnel. Si vous regardez notre constitution de la République démocratique du Congo, accès à l'eau et à l'énergie, ça fait partie des droits constitutionnels garantis pour tout citoyen. Il a droit à ça. Et donc, à ce jour, être à un taux 9-15% d'accès à l'énergie, c'est pas possible. Donc, ça fait partie des priorités du gouvernement, ça fait partie des priorités de développement. On vient de passer en revue comment le pays a atteint, comment le pays a fait les progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement, parce que c'est c'était l'échéance était 2015 et nous sommes en fin 2015. On s'est rendu compte, par exemple, que au niveau de la réduction de la pauvreté, on n'a pas fait beaucoup de progrès. On a fait des progrès sur les autres ODD. On en a parlé encore hier ici toujours à la Radio Okapi. Par contre, il y a beaucoup de freins. Il y a un certain nombre d'indicateurs pour lesquels on n'a pas fait beaucoup de progrès. Et surtout en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. Le pays connaît pourtant une croissance importante aujourd'hui. C'est vraiment les retours de la RDC sur la scène internationale des croissances. 8%, 8,4% cette année 2015. C'est énorme et c'est extrêmement important. C'est encourageant. D'accord.
Alors, pouvez-vous nous détailler les différentes formes d'énergie durable que nous avons ici en RDC ou qu'on peut initier en RDC?
Oui, les différentes formes où nous avons, par exemple, la petite hydroélectricité qui est largement répandue dans ces pays, donc avec l'appui du PNUD et de l'Organisation néerlandaise de développement, SNV. Donc le PNUD a appuyé le ministère de l'énergie, le ministère de l'environnement et donc l'ensemble du pays a réalisé un atlas des énergies renouvelables qui recense 780 sites hydroélectriques pour la petite hydroélectricité.
Répartie. Et c'est quoi la petite hydroélectricité?
La petite hydroélectricité, nous sommes dans des potentiels, c'est-à-dire des sites qui peuvent facilement produire
des mini-barrages,
des vraiment pico-barrages. Quand je dis pico, c'est vraiment en dessous 10 mégawatts. On est dans les 100 kilowatts, 30 kilowatts. C'est possible aussi avec 30 kilowatts, 40 kilowatts, 80 kilowatts. On peut pas toujours commencer à réfléchir en mégawatts. C'est quel potentiel en mégawatts? Il y avait ces complexes-là avant, mais justement, nous avons l'idée de montrer à la population, aux opérateurs, aux autorités, qu'on ne doit pas avoir des complexes quand on parle, on réfléchit en termes de kilowatts. On doit cesser ces complexes-là de dire c'est tout, mesurer tout en mégawatts, 10 mégawatts, 20 mégawatts, 80 mégawatts. Et justement, là, on n'arrive pas parce que ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup de ressources, et on n'arrive pas avancer. Par contre, avec des kilowatts comme on a fait, 20, 30, 80 par-ci, par-là, on peut électrifier des centaines de villages et on peut faire avancer, surtout que c'est réparti sur les 144 territoires de la République démocratique du Congo. Chaque territoire dispose d'un potentiel important en termes d'hydroélectricité. Je ne parle que de ça. Une autre source, on peut parler de la biomasse. La biomasse, c'est en fait le bois énergie pour ceux qui nous sommes habitués au charbon de bois, bois de feu, mais aussi il y a tous les résidus agricoles que nous avons qui peuvent être recyclés, tous les déchets après l'exploitation des maïs, après les riz, la canne à sucre, tout ce qui reste comme résidus qui sont en fait à jeter peuvent constituer en fait une source d'énergie qui peut être recyclée. Mais nous avons aussi la géothermie avec ces pays, la forme géographique de ces pays, tout ce que nous avons comme montagne, nous avons de l'énergie qui peuvent être également utilisées, donc des eaux thermales comme on dit, c'est de l'eau chaude qui existe également dans la partie est et surtout dans les grands grabens. Nous avons également le vent, même si ce n'est pas très très répandu en République démocratique du Congo. Nous avons cependant
l'énergie éolienne,
ce qu'on appelle l'énergie éolienne. Donc là, nous avons un peu dans les Ruzizi. Donc
d'abord, on a assez de vent.
Il y a assez de vent. Il y a assez de vent. Il y a un tout petit peu aussi dans les Mwanda, au niveau de la côte atlantique de la RDC. Et puis un tout petit peu aussi au Katanga. Donc c'est encore une autre source. Et puis nous avons bien entendu les solaires. Les pays est arrosé. Nous sommes au cœur de l'équateur. Vous regardez l'ensoleillement du pays, les niveaux d'ensoleillement du pays.
Il fait de plus en plus chaud, hein, ces derniers temps.
Bien entendu. Et le pays est largement couvert. Donc ça, c'est l'énergie disponible sur l'ensemble, régulièrement répartie sur l'ensemble du pays. Et le Katanga, où il fait curieusement froid, c'est le Katanga qui vient en tête en termes de potentiel en énergie solaire.
Comment expliquer cela?
Oui, bien sûr, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est en fait les rayonnements qu'on regarde, c'est les rayonnements qui est.
Malgré qu'il fait frais,
bien sûr,
on a quand même beaucoup de chaleur. C'est le soleil.
Tout à fait, c'est pas cette chaleur là que nous éprouvons, c'est la sensibilité à la peau. Plutôt c'est l'éclairage, c'est les rayonnements. Donc l'équateur aussi, malgré l'ombre qui lui procure sa grande forêt, l'équateur également et dispose aussi d'un soleil assez important et donc un potentiel un solaire très important. Curieusement, le Kivu, c'est un tout petit pays, le Kivu qui vient en dernier lieu, le Kivu, surtout le sud Kivu, mais pour le reste du pays, on a beaucoup, beaucoup d'énergie solaire.
Mais de plus en plus, il y a des gens qui disposent des panneaux ou des picots voltaïques pour avoir l'énergie solaire.
Oui, il y en a beaucoup. On a circulé l'ensemble du pays, on en voit ça et là. Bon, c'est marché qui doit être encore réglementé parce que effectivement, il y a des petits problèmes. Ça dépend maintenant des technologies qui sont utilisées, mais c'est à encourager. Mais la pénétration est encore faible.
Elle est encore faible.
Malgré malgré l'apparence faible, parce que dans les statistiques nationales, on n'arrive même pas à restituer ça. On ne peut pas restituer. On ne parle pas d'un pour cent. On parle, c'est des 0,00 ainsi de suite. C'est même pour ça que même dans l'agenda d'action pays, on vise à promouvoir l'énergie solaire jusqu'à concurrence même des 5% dans les bilans énergétiques de la RDC, ce qui serait une très très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il n'apparaît pas. Dans les bilans énergétiques de la RDC, le solaire n'apparaît pas. La plupart des énergies renouvelables, en dehors de la biomasse, qui n'est pas renouvelable à ce jour, il n'y a pas d'énergie renouvelable dans les bilans énergétiques de la RDC, dans le bon sens où nous parlons de ce qui peut être mobilisé au niveau de différentes communautés.
Parce qu'avec l'énergie solaire, on peut utiliser cette énergie seulement pour éclairer la maison, éclairer les routes, ou bien on peut faire beaucoup de choses avec.
Avec l'énergie solaire, on peut faire tout. On peut tout faire. La dernière fois, il y a eu FODER ici, Forum sur l'accès pour tous à l'énergie durable ici à Kinshasa. Je crois qu'il y a eu des expositions où on voyait même des fers à repasser
et qui fonctionnaient avec l'énergie solaire.
Sur base de l'énergie solaire. Fers à repasser sur base de l'énergie solaire. Donc, frigo, vous pouvez regarder la télévision, charger vos téléphones, éclairer la maison, faire toutes sortes d'utilisations, y compris même la cuisine. En tout cas, quand nous sommes dans certains pays, on voit des expositions comme ça où on
peut aussi
Bien sûr, accumulation, s'il passe des accumulations qui ont été faites, et on peut faire la cuisine avec.
Voilà. Vous avez parlé de la petite hydroélectricité, la biomasse, les vents, le solaire, l'énergie éolienne, les solaires. Quelle autre source d'énergie?
Donc je crois que ce que nous venons de mentionner là, c'est le plus important, source d'énergie renouvelable qui soit. Et tout ça est disponible en RDC. En dehors peut-être de l'éolienne qui n'est pas suffisamment répandue, bien répartie, mais tout ce qui est renouvelable est disponible. Donc quand nous parlons de la biomasse, nous voyons toutes les autres applications de la biomasse. La biomasse a plus des applications. Donc il y a notamment les biogaz qui peut être à la fois issus des déchets végétaux, mais aussi humains, qui peut être recyclé pour faire aussi de la biomasse. Donc c'est des composantes la biogaz, c'est une composante de la biomasse justement.
Comment faciliter l'accès à l'énergie durable? Idesbald Chinamula, conseiller chargé de l'énergie et changement climatique, au PNU de l'invité d'Okapi Service aujourd'hui. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Okapi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Comment faciliter l'accès à l'énergie durable? Maurice Nguindou, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama. Bonjour à tous et bon début de semaine à tous.
Bien, quelle est votre question?
Oui, moi ici à Kananga, on a apporté les panneaux solaires au gouvernorat. On a dit que non, c'est dans quelques jours qu'on va remettre, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. On a attendu depuis le mois de juin, si je ne m'abuse pas. C'était depuis le mois de juin. Maintenant, jusqu'alors, on est au mois de novembre plutôt, on n'a pas encore eu. Je ne sais pas si ils veulent remettre le câble dans toutes les communes. Mais partout là, quand ils mettent le câble, on est en train de voler le câble électrique. Là, je ne sais pas si ils vont remettre ces mains dans la ville de Kananga ou bien vont mettre encore tout partout, toutes les communes. Parce que les autres là, on est en train de voler les câbles. Je ne sais pas si on va nous freiner ou bien on va. Parce que nous restons dans la commune de Kananga. Les autres communes de Changanza, Lukonga et tout cela n'ont pas de câbles. Maintenant, le gouvernement veut remettre partout, mais là, partout où on veut remettre dans toutes les 4 communes qui restent, on est en train de voler les câbles. Je ne sais pas, notre invité peut nous dire qu'on va seulement remettre dans la même commune de Kananga ou bien ils vont faire seulement l'effort de remettre dans toutes les communes. Merci beaucoup.
Bon, l'invité est ici. Je ne sais pas s'il est informé de tout ce qui se passe à Kananga. Bon, il va répondre tout à l'heure. Merci d'avoir appelé. Adolphe Yuma, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, Jody Gassan.
On vous écoute, Adam.
Bonjour, aussi à l'invité.
Oui, bonjour.
Oui. Moi, je voulais déplorer cette question-là que vous venez de mettre en direct de la radio Capi. C'est le cas, par exemple, ici, chez nous, en Kim. On n'a pas du courant. Ça fait au moins si je ne me trompe pas, 2 mois dans la commune d'Alungouli, qu'on n'a pas du courant. Je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce que notre invité peut nous dire tout cela.
Alors, mais est-ce qu'il y a à Kindu d'autres sources d'énergie qui sont développées, par exemple la petite hydroélectricité, la biomasse, le vent, le solaire? Est-ce que toutes ces formes d'énergie sont exploitées?
Oui, ici chez nous bénéficions du courant qui vient de Kalima, à 100 km de Kindu. Alors on ne sait pas si c'est les gens là de Kalima qui nous fait comme ça ou bien c'est seulement le gouvernement qui ne veut pas nous donner de l'énergie. On ne sait pas ce que c'est quoi ça.
D'accord, merci. Monsieur Idismal.
Oui, merci beaucoup. Je pense que je vais commencer par la question, par répondre à la question d'Adolphe Yuma qui est à Kindu. Je pense qu'il faut préciser une chose, que nous avons été dans toutes les provinces. Les études qu'on a faites, on a indiqué que dans toutes les provinces, les gaps en termes d'accès à l'énergie est important. Les capacités qui existent partout sont de loin insuffisantes aux besoins. Ça, c'est clair. Il faut vraiment que ça soit clair que les délestages, que ce qu'on connaît aujourd'hui comme coupure de courant, ça c'est des phénomènes qu'on peut dire, excusez-moi de les dire, normaux dans les conditions où il n'y a pas assez de production dans les différentes provinces. Il n'y a pas assez de production. Et donc l'idée c'est justement de relancer la production pour répondre à la demande qui est importante. Donc on a essayé de faire cette analyse là. Partout la demande est importante mais la production elle est faible. Donc voilà les plaidoyers que nous faisons dans un premier temps. Et tant que la demande, la production reste faible, c'est-à-dire les capacités installées, les capacités disponibles, ça veut dire qu'on doit connaître ce genre de problèmes que vous connaissez à Kindu. Pour ce qui concerne
Kananga Maurice,
oui, ce qui parlait des panneaux solaires, c'est des projets, on est au courant effectivement de ces projets intéressants qui sont en train d'être développés par le gouvernorat et bien sûr avec l'appui de quelques partenaires. Donc on suit ça de très près parce que nous travaillons directement avec le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques ici à Kinshasa et donc ce sont des choses sur lequel nous sommes suffisamment informés.
Et comment ça va se passer? On va installer des câbles comme ça se fait avec le courant, la SNEL, et grâce à ces panneaux, les gens auront de l'électricité chez eux?
Oui, bon, je sais qu'il y a effectivement des centrales comme ça solaires qui sont en train d'être développées pour connecter plusieurs, donc ce qu'on appelle des réseaux isolés, pour connecter plusieurs maisons, plusieurs quartiers. Pour ce qui concerne les Katanga précisément, plutôt les Kananga précisément, je sais que les projets existent, mais je ne connais pas très bien les détails du projet. Donc je ne serai pas en mesure de répondre. Par contre, les actions de vandalisme que vous avez mentionnées, ça c'est à déplorable, que les câbles sont en train d'être volés, ça c'est des choses effectivement qu'il faut condamner et ça c'est des pratiques qui n'encouragent pas la perspective de l'accès pour tous parce que l'électrification du pays, de l'ensemble du pays doit être accompagnée par la sensibilisation et par un bon civisme de la part des communautés et des citoyens. Merci.
Norbert Rung est à Kinshasa et Madame Pacifique Aboula également. Norbert, bonjour.
Bonjour Monsieur Jordi, c'est Norbert Rung, je suis à Kolwezi dans la province du Lualaba.
Vous êtes plutôt à Kolwezi, merci. À quelle est votre question?
Bon, je voulais juste demander à l'invité, est-ce que ce projet de PNUD est prévu aussi dans la ville de Kolwezi? Parce que quand vous remarquez, la ville de Kolwezi n'est pas bien de servir en courant électrique plutôt. C'est simplement les sociétés minières qui en bénéficient. Est-ce que l'invité ne peut pas aussi faire tout pour que la ville de Kolwezi, les paisibles citoyens puissent bénéficier de ce projet de juste pour l'énergie renouvelable? Parce qu'avec des barrages, la situation de la SNEL, c'est vraiment compliqué. Vous avez simplement 2 jours du courant. Après, s'il y a une petite pluie qui tombe, le courant peut partir, ça fait 2 semaines sans vous avertir les radios. On ne suit même pas des informations. Hier, il y a 3 jours que le courant est parti. On n'avait plus l'accès à la radio Okapi parce qu'il n'y a que la seule radio communautaire, la RCL, qui nous met en contact avec la radio Okapi. S'il n'y a pas le courant ici, c'est-à-dire vous êtes privé de tout. Mais le courant est simplement donné aux entreprises minières, aux autorités qui sont dans de belles quartiers. Mais nous qui vivons dans des cités, on n'a pas du courant. Est-ce que l'invité ne peut pas aussi nous conduire? Nous, les paisibles citoyens de basse classe, qu'on puisse bénéficier de ce projet de courant renouvelable, s'il y a des panneaux solaires aussi, c'est quoi? C'est un peu ça notre préoccupation, merci.
Bien, Madame Pacifique Aboula, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, José.
On vous écoute.
Ok. Tout ce que l'invité vient de dire, le projet, c'est bien, Moi, j'avais une question par rapport à ce qui se passe dans la population. Aujourd'hui, il y a même les gens qui sont informés, la plupart de la population, qui savent comment utiliser le courant et tout. Mais ce sont eux-là qui volent encore le câble électrique et tout. Et par après, ils accusent la SNEL et tous ces gens-là disent que non, c'est parce qu'il n'y a pas l'autorité. Alors, il y a aussi ces coins-là au Congo, les coins reculés qui... jusqu'à aujourd'hui, ne savent même pas l'utilisation du courant électrique. Ils ne savent même pas qu'il existe et ils peuvent en avoir un jour. Dans leur programme, ils ont prévu une partie de sensibilisation. Comment sensibiliser ces peuples qui sont un peu reculés? Comment utiliser ces courants? C'est ma question, merci.
Bien, merci. Idrissbald.
Oui, merci beaucoup. Que ce soit Madame Kaboula Pacifique ou Madame Monsieur Rung Norbert de Kolwezi, merci pour vos questions qui sont posées. Je vais d'abord préciser une chose, parce que j'ai entendu des part et d'autre, on parle de votre projet, le projet du PNUD. J'aimerais préciser que c'est pas un projet du PNUD, c'est un programme du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le PNUD est un partenaire d'appui, d'accompagnement, un partenaire qui apporte l'appui conseil. C'est vraiment ça notre rôle. Il faut que vraiment que ça soit clair que c'est le ministère de l'énergie et ressources renouvelables. J'interviens dans cette émission simplement pour effectivement apporter et essayer d'apporter la lumière sur le programme, sur les contenus. Mais il y a des émissions plus élaborées qui sont faites et qui sont même en train d'être passées en ce moment préparées au niveau du ministère pour justement cette sensibilisation. Alors, pour Kolwezi, justement, on disait si ces projets ne peuvent pas ou ces programmes ne peuvent pas couvrir, arriver à Kolwezi qui a un taux d'accès très très faible et je sais que ça tourne même autour de 3 à 4% pour Kolwezi. Mais écoutez, les projets accès pour tous, c'est bien dit, accès pour tous à l'horizon 2030. Donc c'est l'ensemble du pays qui est visé, l'ensemble du pays.
C'est
donc
un défi à relever. Hein.
C'est important.
D'ici 2030.
D'ici en 2030, ce sont des engagements que le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris. Il a souscrit, il a adhéré à l'initiative.
Au cours de ces forums.
Au-delà, bien avant, bien sûr. C'est depuis D'accord. 2012. C'est depuis 2012 que la RDC a souscrit à cette initiative.
D'ici 2030, toute l'étendue du territoire national sera électrifiée.
Ça, ce sont les ambitions, les engagements qui ont été pris. Mais bien sûr que à 100%, c'est ça qui est visé. Mais bien sûr, on va faire ces grands mix énergétiques. On va faire un mix énergétique. C'est ça qui est préconisé. Donc, on va voir. Certains pourront être électrifiés directement par des mini barrages hydroélectriques, comme on l'a dit, mais d'autres aussi par des kits tout à fait autonomes, comme les solaires, comme on vient d'en parler. Et d'autres aussi vont promouvoir les technologies des biogaz, mais aussi biocarburant, qui est aussi une autre composante de la biomasse, le biocarburant. Donc, la question, pour revenir à la question de Madame Pacifique Kaboula sur la sensibilisation, je crois que ça, c'est un élément important. C'est pour ça que la société civile fait partie des acteurs clés qui porte l'initiative énergie durable pour tous. La société civile a un rôle très important, à la fois sur l'éducation civique des populations pour bannir ces actes de vandalisme, mais aussi sur la bonne utilisation de l'énergie. Ça, c'est important. Vous savez, toutes ces pratiques également d'utilisation, on éduque bien la population, comme on a vu ça au Katanga, justement. Au Katanga, le fait simplement d'échanger des ampoules à incandescence aujourd'hui à des ampoules LED qui sont utilisées actuellement, le Katanga a réalisé une économie de 50 mégawatts. Et ça, c'était parce que la population était impliquée, parce qu'il y a une forte sensibilisation. Si on fait la même chose à Kinshasa, on peut faire peut-être les doubles des 50 mégawatts ou même les triples. Donc, il faut une coopération de la population qui, justement, doit savoir qu'avec l'électricité, on ne peut pas aujourd'hui cuisiner. Il faut qu'on change ces pratiques-là. Comme ça, on libère l'énergie qu'on utilise pour les réchauds, pour utiliser d'autres combustibles. Donc, ça, c'est des propositions qui sont sur la table, justement.
Alors, la deuxième édition du Forum national sur l'accès pour tous à l'énergie durable, FODER, s'est tenue le week-end dernier à Kinshasa et ce forum a été organisé par le ministère de l'énergie durable, de l'énergie en collaboration avec le PNUD. Alors, qui ont participé à ce forum et quels étaient les différents thèmes abordés et quelles sont les résolutions?
Oui, le FODER a été effectivement FODER Forum sur l'accès pour tous à l'énergie durable en RDC, donc a été réalisé en partenariat avec le PNUD et la BAT, mais c'est essentiellement une initiative du ministère du gouvernement congolais au travers du ministère de l'énergie et ressources hydrauliques que nous avons accompagné dans l'organisation de cet événement qui était justement axé sur la validation ou la présentation des grandes lignes directrice de l'agenda d'Action Pays. Il fallait partager ça avec les partenaires. Donc, qui étaient les parties prenantes à ce forum? C'était toutes les couches, toutes les représentants des grandes composantes. Donc, les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, les chefs d'entreprise, les secteurs privés. Nous avons eu également la présence de la société civile. Et puis, bien sûr, il y a eu une forte, forte présence du gouvernement, représenté par plusieurs ministères. On a senti effectivement que tous les ministères sont affectés par le manque d'électricité. Et on ne peut plus être plus clair que le ministre des Mines qui a dit, écoutez, nous voulons de l'énergie. Si on avait de l'énergie, la RDC aurait pu dépasser la barre des 1 million de tonnes de cuivre que nous avons atteint l'année passée. C'est les grands records. La RDC bat maintenant la Zambie en première position en termes de production de cuivre. Et donc le ministre disait que s'il y avait suffisamment d'énergie, on pouvait en arriver aujourd'hui et cette année peut-être à 1,5 million de tonnes de cuivre produites. Donc, tous les ministères, que ce soit l'agriculture, le développement rural, que ce soit les petites et moyennes entreprises, que ce soit l'émergence de la classe moyenne, que ce soit les ministères du genre ou de la femme, famille et enfants, on a senti de partout les cris. Et donc, c'est avec spontanéité que tous ces ministères, tous ces ministres sont venus en personne, accompagnés, bien sûr, des experts de leur ministère. Parce que c'est une question centrale.
Aujourd'hui, quelles sont les conclusions? Qu'est-ce qui a été décidé par rapport à l'accès, pour faciliter l'accès à un plus grand nombre à l'énergie?
Oui, les conclusions, d'abord, c'est des partenariats qui vont être noués avec ces différents ministères. Parce que c'est un défi important. C'est l'accès à l'énergie, ça passe par des programmes multisectoriels. Ça passe par des programmes globaux intégrés. C'est des grands programmes. Et ces programmes ne peuvent pas être portés par les ministères de l'énergie tout seuls. Donc, une des conclusions, c'est qu'il faut travailler ensemble en synergie, davantage en synergie. Et l'énergie vient répondre aux questions de développement. Il faut qu'on connaisse les plans de développement de ces différents ministères. L'énergie va venir, par exemple, soutenir le plan d'industrialisation de ces pays. L'énergie va venir soutenir les programmes qu'on appelle centres de développement intégrés en milieu rural. L'énergie va venir soutenir le développement des parcs agro-industriels comme celui que nous avons à Bukangalonzo. Bientôt, on parle d'autres parcs en Kunda, dans le Bas-Congo, ou dans les Kasaï, et ainsi de suite. Donc, ou même encore à Kindu, pour assurer notre auditeur
Yuma de Kindu.
Oui, Yuma de Kindu, pour dire que même à Kindu, il y a également un parc agro-industriel qui est prévu. Et donc, l'énergie va, on va voir avec ce qu'on appelle les cadastres agricoles, cadastres miniers, cadastres foncier, comment on va faire en sorte qu'on puisse favoriser...
Mais quelles sont les stratégies concrètes à adopter? Parce que la vision, c'est d'ici 2030 électrifier l'ensemble du pays. Mais quelles sont les différentes étapes pour arriver à pour atteindre cette vision?
Oui, quelles sont les différentes étapes? Donc, on a les grandes lignes, l'agenda est en train d'être finalisé, mais déjà, il y a des programmes sur terrain. Parce qu'il faut les reconnaître qu'il y a des gros progrès que le pays est en train de réaliser. On a aujourd'hui environ 8 à 10 chantiers hydroélectriques qui sont en cours d'élaboration par le gouvernement congolais, financés en grande partie par le gouvernement congolais. Nous avons Inga, Inga 3, qui avec 4800 mégawatts, qui avec en partenariat avec l'Afrique du Sud.
On a Kakobola.
Je parle Inga. Il y a aussi Kakobola, bien entendu. Il y a Kakobola avec 10,5 mégawatts. Il y a Grand Katende, 64 mégawatts, qui est justement qui va desservir les Kasaï occidentales. Bon, excusez-moi de dire, d'utiliser encore les anciennes provinces, mais en fait, va desservir tous les grands Kasaï. Il y a effectivement aussi, à côté de nous ici à Kinshasa, donc il y a Zongo D, avec 150 mégawatts. Il y a Ruzizi également. On est en train de parler de Ruzizi D, Ruzizi 3 maintenant, au niveau de la région des Grands Lacs. Il y a un silo, un Seke, au niveau du Katanga également, qui va...
Mais par rapport à l'énergie durable, mais c'est ça qu'il faut promouvoir.
Tout ça, c'est des énergies renouvelables, c'est des énergies durables, c'est des sources d'énergie renouvelables qui vont être produites. Et donc, c'est des investissements importants. Jamais la RDC n'a eu autant de chantiers lancés en un seul quinquennat, je peux dire. C'est-à-dire, on a tout ça en cours, mais il faut les soutenir. Il y a d'autres projets, avec l'appui, bien sûr, du PNUD aussi. Il y a un projet sur la promotion de la petite micro-hydroélectricité qui va également être lancé probablement en début depuis l'année 2016. Il y a également d'autres partenaires comme l'Union européenne, la Banque mondiale, la BAD aussi qui ont des initiatives en Sahel. Donc l'idée c'est de coopérer ensemble, de créer plus de synergies, de travailler vraiment ensemble en renforçant les partenariats. Donc c'est un des résultats concrets de ces forums. Mais aussi impliquer aussi les secteurs privés. C'est ça les grands gaps. Il faut mobiliser davantage les secteurs privés parce que tout ce qu'on fait c'est bien, mais il faut effectivement une grande ouverture du côté du secteur privé. Et aujourd'hui, on sait que le secteur de l'énergie ou de l'électricité est désormais un secteur ouvert. C'est un secteur où on peut faire du business. Ce n'est plus du monopole du gouvernement, de l'État ou de la SNEL comme c'était le cas. Aujourd'hui, on peut venir investir dans le secteur de l'énergie comme on investit dans le secteur des mines, comme on investit dans le secteur de l'agriculture.
On peut venir avec des panneaux solaires et les proposer.
Bien entendu, bien entendu. Donc, c'est ça qui va même booster l'accès pour tous. C'est
là. Il faut que les privés, les investisseurs
Absolument. Il faut que les privés viennent intervenir. Oui. Et pour qu'ils interviennent, il faut, au-delà de la loi qui a libéralisé les secteurs, il faut des mesures d'application. Et c'est à cela que le gouvernement s'attelle. Et je sais que le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour justement opérationnaliser cette loi, la rendre opérationnelle en mettant en place les mesures d'application nécessaires.
Comment faciliter l'accès à l'énergie durable? Idesbald Chinamula, conseiller chargé de l'énergie et changement climatique au PNUD, de l'invité d'Okapi Service. Des autres auditeurs en ligne, Gérard est à Mouenéditou et Odin et Congo à Mandaka.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment faciliter l'accès à l'énergie durable à un plus grand nombre de Congolais? Gérard de Mouenéditou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également votre invité. Le thème du débat est très important.
Gérard, parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas très bien.
Oui, c'est un sujet qui est très important. L'énergie, c'est quelque chose de bien pour tout le monde. Nous sommes à Mouenéditou et je vous apprends qu'il y a des gens qui n'ont jamais voyagé. Pour eux, le courant, c'est les groupes électrogènes et c'est tout. C'est tout ce qui peut produire le courant. Quand vous parlez de barrages, tout ce qu'on est en train de raconter pour certains, ça ne dit absolument rien. Alors, tous ces projets-là qu'on présente, c'est une bonne chose, ce sont des bonnes initiatives, mais vaut mieux, on a toujours dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors, on peut commencer pour ne pas achever, pour ne pas mettre cela en application. Il y avait autrefois, ici chez nous, on est dit tout, la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, avait acheté un grand groupe électrogène qui pouvait alimenter la ville de Mouenéditou en entendant la construction des barrages ici et là. Mais ce groupe-là, depuis qu'il est venu, il est installé dans l'enceinte de la mairie de Mouenéditou. Alors ce groupe-là ne fait absolument rien. C'est un grand investissement qui chôme. Alors personne n'utilise ça. Manque d'huile moteur, manque de carburant. Et on a alimenté quelques lignes, quelques avenues à Mouenéditou avec ce groupe pour une petite période seulement. Et c'était en appui avec la SNCC, Société de chemin de fer, donner le carburant. Et la société, à un certain moment, s'est retrouvée surchargée avec cette dépense. Il a arrêté et c'est fini, ce groupe-là chôme. Et c'est ainsi que Mouenéditou est dans l'obscurité. Et le courant aujourd'hui, pour les enfants qui sont nés et qui ne se sont jamais déplacés, le courant ne leur dit absolument rien.
Bien, merci Gérard. Odin et Congo de Mbandaka, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kassema, bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, je suis vraiment ravi de notre sujet d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un problème qui touche plus la province de l'Équateur. Une province qui reste en noir, dans le noir, depuis des années. Or, la province de l'Équateur, sur le plan hydraulique, je peux dire, donc, on a des sources hydrauliques. On a aussi les sources solaires parce que la ligne Équateur, je sais que tout le monde le sait, est passée ici dans la de Mbandaka, précisément au quartier de Ngonzo. On a aussi la forêt pour ce qui concerne le climat de la biomasse. Mais la province reste toujours dans le noir. Il n'y a aucun projet pour ce qui concerne la province de l'Équateur en général, précisément la ville de Mbandaka. Une ville qui est le chef-lieu de la province, toujours dans le noir. Le gouvernement remonte toujours des stratégies, comment améliorer, comment mettre. Il n'y a aucun projet pour comment mettre le courant dans la ville de Mbandaka. Chaque jour, on assiste dans les agences, si on appelle ça, on les appelle comment, si les temporaires de la SNEL qui chaque jour enlève les câbles dans la ville. Chaque jour, j'insiste. On ne voit jamais du courant. Les poteaux, ça ne s'allume même pas. Même le centre-ville, toujours dans le noir. Je ne sais pas, je pose un peu la question à l'invité. Comment faire pour alimenter la ville de Mbandaka, en particulier la province de l'Équateur, toujours dans le noir? C'est ça ma préoccupation, je dis Daniel Kassam.
Merci. Merci à Odin Congo de Mbandaka. Monsieur Idesbad, vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. D'abord pour Gérard de Moneditou, merci pour la question. Je crois que peut-être qu'il nous a suivi avec un léger retard. Monsieur de Moneditou, Gérard, donc on avait parlé qu'il y avait les grands Katende qui va desservir en principe les grands Kassai, vraiment avec 64 mégawatts. C'est un chantier qui est suffisamment avancé. On a suivi dernièrement les reportages après l'arrivée des ministres sur place et des autorités gouvernementales. Nous avons vu que les chantiers sont très très avancés. Donc ça, c'est une perspective pour le grand Kassai. On sait que ça va être 32 pour l'un des Kassai et puis 32 pour l'autre. Par contre, votre question effectivement est préoccupante. La question quand vous soulevez qu'aujourd'hui ce sont les groupes électrogènes qui alimentent l'ensemble du pays, dans la plupart des villes, des centres-villes, ça c'est évident. C'est évident. Malheureusement, c'est la situation. Donc c'est ce qu'on appelle les groupes thermiques et qui sont en train de fonctionner. Donc on a vu ça aussi.
C'est une énergie non polluante?
Oui, ça c'est du carburant bien sûr, c'est ça fait partie des énergies fossiles, mais chez nous ce n'est pas alarmant, son utilisation est encore très très faible, ça apparaît à peine à environ 5% dans les bilans énergétiques de la République démocratique du Congo. Donc c'est pas très alarmant, et pour autant que ça rend des services utiles à la population, permettre au moins l'accès, c'est pas un problème.
Il y a la nuisance sonore hein, aussi les soirs où chacun allume son groupe électrogène, c'est du bruit dans les quartiers.
On est tous d'accord, mais pour cette question-là, je crois que c'est des bases. Par exemple, je cite les Kivu, les Nord Kivu, où cette pratique s'est même carrément enracinée avec les Kigroupés, comme ils appellent ça, les regroupements des au niveau des quartiers, des communautés, des opérateurs qui distribuent l'énergie thermique sur base des groupes électrogènes. Mais c'est des bonnes bases. Ça crée une certaine clientèle fidélisée. Les gens payent chaque jour, chaque semaine. Ils sont desservis. Ça, c'est des bases. Ça va être remplacé avec les développements, parce qu'il y a un potentiel énorme effectivement dans les Kivu, tout comme aussi dans le Moineditu, il y a un potentiel énorme, donc qui pourra être effectivement développé et remplacer ces bases là.
On déplore le fait qu'il y a un groupe qui traîne à la mairie et qui n'est pas utilisé.
Oui, mais ça c'est les problèmes aussi de la question des prix, des rentabilités. Donc on va avancer sur la question de la tarification. La loi autorise désormais ne donne plus mandat à donner, à fixer des tarifs forfaitaires, par exemple. Les gens doivent être en mesure de payer. Donc, s'il y a un groupe électrogène en Amérique qui desserve l'énergie et que les abonnés ne payent pas pour soutenir son entretien et son fonctionnement, il est évident que ça ne marche pas. C'est vers là qu'on veut aller. On veut avoir un service de qualité, mais que les gens soient aussi en mesure de payer pour assurer la continuité des services. Et donc, pour répondre aussi à la question de M. Ekonga Odin et de Mbandaka.
Mbandaka, où il n'y a pas de courant hein, depuis des années, la ville de Mbandaka n'est pas toujours éclairée.
La ville de Mbandaka n'est pas éclairée, ça c'est vrai. Pourtant, la ville de Mbandaka, c'est Mbandaka et l'Équateur dans son ensemble, c'est une province où il y a des potentiels énormes. C'est le cœur même du bassin du Congo. Donc, on a avec la forêt, la plus importante forêt, le massif forestier tropical au niveau de l'Équateur, avec les réseaux hydrographiques très très importants. Mais vous savez très bien que c'est largement navigable. Et quand c'est navigable, vous perdez du côté de la production d'électricité. Donc
mais c'est on ça peut où... développer des panneaux solaires, à l'énergie solaire. Parce que le soleil, il y en a à Mbandaka.
Suffisamment du soleil. On peut donc travailler avec le soleil. Et il y a plusieurs initiatives. Il y a beaucoup d'études que moi j'ai vues qui proposent justement d'utiliser le solaire pour pomper de l'eau, pour pomper de l'eau à une certaine hauteur et puis faire turbiner cette eau-là et avoir de l'énergie hydroélectrique. Donc on peut combiner le solaire, l'hydroélectricité, c'est possible. Il y a beaucoup de projets comme ça en étude. Et
pour Mbandaka. Mais pourquoi on n'arrive toujours pas à les
C'est encore en discussion. En tout cas, c'est encore en discussion. J'ai vu beaucoup de partenaires au FODER qui ont participé avec des idées claires pour Mbandaka, avec les autorités, bien sûr, de Mbandaka aussi. Parce qu'il faut dire aussi que chaque province était représentée au FODER. Donc, les discussions qui ont porté sur l'accès pour tous, on a relevé aussi tous les défis qui concernent chaque province. Donc, c'est porté par les autorités locales aussi.
Bien, on va terminer avec l'ingénieur Mangoyo de Kinshasa. Bonjour. On vous écoute.
Oui, je salue notre invité. J'ai une préoccupation et en même temps, je vais poser une question. Est-ce que j'ai suivi notre invité qui a parlé des choses du Katanga, Lubumbashi précisément, où on a réalisé des économies et grâce à la sensibilisation de la population qui m'a fait compris, la population a compris, on a acheté des ampoules économiques et a mis en place des ampoules incandescente. Est-ce que, moi je voudrais demander à notre invité, est-ce que vous pensez que ça soit une seule solution pour qu'on puisse vraiment bien desservir la population, surtout ici à Kinshasa, avec tout ce que nous voyons au niveau des choses, des câbles vétustes, nous voyons au niveau des cabines, de pratiquement la maintenance n'est pas appropriée. Est-ce que vous pensez que l'achat des ampoules économique soit l'unique solution pour que la qualité de service ou la défecte en énergie ici à Kinshasa soit vraiment améliorée.
Bien. Merci, ingénieur Mangoyo, monsieur Idesmal.
Ok, merci, monsieur ingénieur Mangoyo, merci pour votre question. Je pense qu'il y a déjà une réponse dans votre propre question. Quand vous dites, est-ce la seule solution? Bien évidemment que non, c'est pas la seule solution, mais c'est une option seulement, une des solutions. Il faut noter que l'accès pour tous passe par plusieurs solutions. Il faut combiner plusieurs formules. Ça, ce n'est qu'une formule de l'efficacité énergétique. Donc, il faut agir à la fois sur l'offre et la demande pour favoriser l'accès pour tous. Sur l'offre, c'est-à-dire augmenter la capacité de production. Et là-dessus, on va mixer aussi les sources, à la fois comme nous avons parlé tout à l'heure avec l'animateur de l'émission. Donc, nous allons à la fois utiliser la petite hydroélectricité, nous allons utiliser les centrales à biomasse sous toutes ces différentes composantes. On a les solaires et puis nous avons les éoliens, nous avons... la géothermie, ça c'est là au niveau de la production. Mais la production, c'est à la fois les réseaux, les grands réseaux, les petits réseaux également, des réseaux isolés. On doit tenir compte de tout ça dans la distribution. Par contre, il y a des actions aussi à porter du côté de la demande. Du côté de la demande, ce sont les utilisateurs. Des bons appareils qui font l'économie d'énergie, mais aussi changement d'attitude. On ne peut pas laisser les lampes allumées toute la journée. On peut utiliser aussi ce que nous venons d'appeler, en termes d'efficacité énergétique, ces remplacements-là, ces trocs-là contre les ampoules à incandescence, contre les ampoules économiques. Ça, c'est également des formules. Donc, il y a plusieurs options à utiliser, pas une seule option, mais il faut justement combiner. Il y a aussi des mesures politiques en termes des taxes, de la taxation, des taxations des produits qui entrent pour faciliter justement les récoltements. Les panneaux solaires coûtent très cher aujourd'hui parce qu'il y a un problème également de la taxe, mais au niveau du gouvernement, je crois que cette formule-là est aussi en étude. Il y a aussi la question du renforcement des capacités. Il faut qu'on renforce les capacités. Il faut qu'on comprenne comment on peut produire davantage de l'énergie. Il faut doubler les écoles techniques, les écoles d'ingénierie aujourd'hui. On ne doit pas attendre seulement qu'on ait des ingénieurs civils. Donc, à tous les niveaux, les écoles techniques que nous avons déjà, ce qu'on appelle A2, A3, A1, c'est des écoles qu'on peut promouvoir aussi pour développer. Nous, ce que nous voyons sur terrain quand nous sommes là, c'est des énergies qui sont produites par des jeunes gens qui à peine sont arrivés en deuxième secondaire, qui produisent de l'énergie, qui sont en train de faire des merveilles. C'est des jeunes gens qui font encourager. Donc, il y a également ce genre de solutions qui sont proposées en termes de renforcement des capacités et des partenariats. Il y a plusieurs initiatives.
Plusieurs initiatives pour faciliter l'accès à l'énergie durable par tous. Merci Desbald Chinamula. Je rappelle que vous êtes conseiller chargé de l'énergie et changement climatique au PNUD. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.